Bonjour, c'est le MAG sur Tropic FM. Aujourd'hui, je reçois l'artiste de la semaine sur votre antenne, l'auteur, compositeur, interprète cadurcien Charles Dumont. Charles Dumont, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, cadurcien n'est pas un gros mot, hein, mais le nom des habitants de Cahors. Vous avez vu le jour. Vous êtes toujours attaché à votre région d'origine et à ce superbe département qu'est le Lot.
Oh, comment pourrait-il en être différemment? C'est une région merveilleuse avec une richesse de passé, de présent et d'avenir extraordinaire. Donc c'est un endroit béni parmi les dieux et surtout c'est un endroit qui n'est pas encore pollué par par trop de foule et par c'est un endroit qui a pu conserver son identité quoi. Et ça c'est très 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 merveilleux. Et, enfin, vous savez que moi j'ai passé beaucoup de mon enfance à Cahors. J'ai toujours une maison à Cahors. C'est un endroit que j'adore et j'espère bien aller y reposer d'ailleurs. Vous voyez à quel point j'aime cette ville.
Alors Cahors n'est pas seulement connu pour son vin, hein. Il y a vu naître des personnages en couleur, hein, le pape Jean XXII, Jean Gambetta, Denis Charvet pour le rugby et puis vous-même.
Il y a Clément Barreau.
D'accord.
C'est un grand poète.
D'accord.
C'est une ville qui a donné des gens tout à fait passionnants, qui a servi la République. Puis il y a M. Gambetta, quand même. On va pas l'oublier. Quand même.
Oui, je l'ai cité, Jean Gambetta. Oui.
Excusez-moi, je l'avais raté.
Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que la chanson fait autant partie de notre patrimoine, au même titre que la religion, la politique ou le rugby?
Je ne sais pas vous répondre comme ça spontanément à ça. Je crois que c'est très très important et que surtout, grâce à certains auteurs comme Brel, comme Brassens, comme Ferré, la chanson a acquis des lettres de noblesse qui aujourd'hui fait que c'est un art à part entière. Quoi. Aujourd'hui, ce n'est plus la chansonnette. Il y a aussi le génial Charles Trenet qui aussi a été le premier à provoquer justement l'élan vers la chanson qui dit des choses intéressantes, qui est capable d'aller jusqu'au surréalisme. Donc la chanson est vraiment aujourd'hui un art complet, qui je crois est à la fois populaire et un peu plus que populaire. Il est aussi rentré dans l'élite, parce que je pense qu'il y a des poèmes de chansons qui valent les meilleurs poètes dits classiques.
Alors je parlais de religion, c'est un peu grâce à elle, si une de vos vocations, la composition de chansons, vous est apparue ou
Absolument. Hein? Moi j'y dois beaucoup puisque le monsieur qui m'a sorti d'un grand désarroi dans lequel j'étais, c'était un monsieur qui s'appelait Paul Silveira, qui était organiste à Saint-Ambroise à Paris, dans le 11e arrondissement, et qui m'a pris sous son aile pour me faire en quelques années le temps que j'avais perdu à jouer de la trompette, dont je ne pouvais plus jouer. Donc je dois beaucoup à être rentré dans cette église par désarroi, d'avoir écouté cet organiste, d'être monté dans les cintres, d'être allé le voir. Et quand il a vu mon désespoir, il m'a compris, il m'a aidé. Je lui dois beaucoup et effectivement, je dois beaucoup à la religion.
Alors, vous avez découvert la musique avec le jazz et Louis Armstrong.
Oui.
Que vous est-il resté lorsque vous avez composé vos premières chansons, que ce soit pour vous ou pour les autres? Il vous a resté des choses du jazz?
Oui, j'ai commencé très tôt. Je crois que ma première chanson, je devais avoir 13 ans. Elle s'appelait « Petite aux yeux si doux ». Et je me rappelle comme si c'était hier. Après, je suis parti militaire. Donc, à cette époque-là, j'étais trompettiste. Et puis, j'ai eu un accident de gorge qui m'a empêché de continuer cette carrière dans la trompette. Et en sortant de l'armée, parce qu'à cette époque-là, on faisait le service militaire, en sortant de l'armée, il fallait faire quelque chose. Je me suis rappelé que j'avais écrit des chansons en étant enfant et que j'adorais toujours les mêmes auteurs, les mêmes chanteurs, Jean Sablon, Charles Trenet. Et j'aimais bien même un chanteur dont on parle plus aujourd'hui et qui était un personnage fabuleux qui s'appelait Maurice Chevalier. Bien, j'aimais les chansons, puis il y avait Yves Montand à l'époque qui était vraiment le nouveau chanteur à la mode. Donc j'ai tout de suite compris que si je pouvais faire quelque chose, je le ferais là-dedans. Là après, ça a été un long chemin. Vous savez, on dit c'est difficile aujourd'hui de se faire une place dans la chanson, c'est vrai. Mais ça a toujours été difficile. Je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, c'est difficile de se faire une place.
Alors, après plusieurs années d'apprentissage, certains diront plusieurs années de galère, ouais. Vous allez faire plusieurs rencontres qui vont changer votre vie. Hein. Tout d'abord, celle avec avec le parolier Michel Vauquer.
Oui, ça a été la très très grande rencontre de Michel Vauquer, qui était le mari de Cora Vauquer, et avec qui nous avons écrit quelques chansons, ouais. Et qui fait que quelques années après, il m'a amené chez Madame Piaf, où toute ma vie a basculé.
Pour vous, on peut dire qu'il y a eu deux Charles Dumont, un avant et un après.
Absolument. Vous savez, quand j'ai connu Madame Edith Piaf, j'étais déjà quasiment sociétaire à la société à la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs. Donc j'avais déjà écrit pour tout le monde, j'avais écrit pour Dalida, pour Distel, pour Annick Cordy, pour tout le monde, j'avais écrit une chanson pour tout le monde. Et il n'y avait qu'une personne qui m'avait refusé mes chansons jusqu'au jour où je lui ai apporté avec Michel Vauquer. Non, je ne regrette rien. C'était Madame Piaf. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis toujours que je fais, vous savez, des tours de chant un peu partout. Je rentre du Japon, j'ai fait une tournée au Japon, je suis allé faire un concert à Leipzig en Allemagne, je suis allé faire des récitals un peu partout dans le monde, et en France, bien sûr, parce que le 9 mars, là, je suis à l'Olympia à Paris, et je peux vous dire que aujourd'hui, quand je chante « Non, je regrette rien », du fond du cœur, je ne regrette rien.
J'imagine que 53 ans après l'écriture de cette chanson, vous devez être encore très fier.
Oui, mais vous savez, parce que je crois que... Bon, bien sûr, il faut comprendre que quand on dit « je ne regrette rien », ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à regretter. Ça veut dire que, la finalité de sa vie, quand on fait le bilan de sa vie, il y a des gens, quand ils font le bilan de leur vie, ils regrettent parce qu'ils ont raté leur vie. Ils ont pourtant fait tout ce qu'ils ont pu pour la réussir, mais ils n'ont pas eu de chance. Ils l'ont raté. Et le bonheur, je crois qu'on peut avoir, c'est que quand à la fin de sa vie, on a avec des joies, avec des peines, à la fin, on puisse dire, ça fait rien, je ne regrette rien. Mmh. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre cette chanson, et je crois que tout le monde l'entend dans ce sens-là. C'est pour ça qu'un demi-siècle après l'avoir créée, elle est encore aujourd'hui populaire, que les plus grands, que ce soit Hallyday, que ce soit des chanteurs très modernes et d'autres moins modernes, les plus grands l'ont chantée, les plus grands la chantent. C'est parce que, je crois, cette chanson correspond bien à ce qu'on a tous envie de dire quand il faut quitter la scène. Voilà. Ouais. Je ne regrette rien. Alors, je ne regrette rien. Charles Dumont ne regrette rien.
Alors, Edith Piaf est aussi à l'origine de vos débuts dans la chanson en tant qu'interprète, puisque c'est elle qui avait décidé que ce serait vous qui interpréteriez Les Amants et qu'elle serait votre choriste.
Hein? C'est ça? Oui. Oui, mais c'est très amusant parce qu'on a donc fait cette chanson, je voulais pas chanter. Et elle m'a dit, si tu chantes pas, mais tu t'en vas, si tu quittes la maison. Et comme c'était une place qu'on n'avait pas envie de perdre, je suis resté. Et donc on a fait le disque, qui a eu un immense succès, et que je chante toujours cette chanson qui s'appelle Les Amants. Et pour vous dire que les très grands sont parfois les plus généreux et les plus merveilleux, c'est qu'elle qui était à l'époque et qui est toujours la plus grande chanteuse du XXe siècle, de chanteuse de variété, de chansons, Elle a dit, mais écoute, moi je ferai les chœurs. Elle a fait la seconde partie. C'est d'une modestie, c'est incroyable, quoi, quand on est le plus grand, de se mettre au service de quelqu'un que personne ne connaissait en tant qu'interprète à l'époque. Donc, vous voyez, ça ne peut être fait que par les très grands. Les petits ne font jamais ça.
Donc, à partir de ce moment, vous avez commencé à écrire pour les autres depuis longtemps, mais aussi pour vous.
Depuis la disparition d'Edith en 63, je n'ai fait que quelques chansons. Remarquez, j'ai quand même fait le film de Jacques Tati, Trafic. J'ai fait une chanson pour Barbara Streisand. J'ai fait beaucoup de chansons, mais très très peu. Pas du tout comme avant. J'étais un faiseur de chansons. Je ne faisais que des chansons. Tandis que là, je suis devenu quelqu'un qui voulait chanter ses chansons. Et comme je vous l'ai dit, et comme je vous le répète, mon Dieu, je ne regrette rien.
Ouais. Pour vous, vous avez fait également appel à d'autres personnes pour écrire des paroles. Je pense notamment à Sophie
Mancuneau. Ah oui, mais ça aussi, Jean Cocteau disait qu'une carrière, ça se fait avec trois éléments. Comme un trépied, pour que ça tienne debout, une carrière, il faut qu'il y ait trois pieds. Il faut qu'il y ait un peu de don, beaucoup, beaucoup de travail et de la chance. Si vous manquez un de ces pieds, c'est difficile. Et effectivement, moi, un de mes pieds, c'est d'avoir eu, en tout cas, certainement, un peu de chance et beaucoup de chance. La chance de rencontrer Michel Vauquer, la chance de rencontrer Madame Piaf, et la chance aussi de rencontrer Sophie Mancuneau. Ça, c'est un grand bonheur, vous voyez.
On peut la présenter, cette dame, parce qu'elle n'est pas forcément bien connue du grand public.
Sophie Mancuneau, c'était d'abord une dame qui avait une culture immense, parce que malheureusement, elle nous a quittés il y a 2 ans. Et avec elle, j'ai fait, à l'époque où je suis retombé dans un creux, je l'ai rencontrée par hasard dans une place à Paris. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous devenez? Bien, j'ai dit, rien, j'ai plus envie de chanter, j'ai plus envie de rien faire. Et elle m'a dit, je sais pourquoi, parce que ce que vous chantez maintenant, vous n'aimez pas, le chanter, parce que vous êtes trop dans le style de Madame Piaf. Et j'ai dit, oui, c'est peut-être ça. Elle m'a donné un texte qui s'appelait Ta cigarette après l'amour. J'ai fait cette chanson est devenue un immense succès. Elle a mis 2 ans pour démarrer, mais elle est devenue un immense succès. Et encore aujourd'hui, je la chante, et quand je la chante pas, on me dit, ah, vous avez pas chanté La cigarette après l'amour. Donc, après, avec Sophie McNeil, vous savez, un succès appelle la collaboration qui suit. Donc, après, j'ai continué à travailler avec elle, et je lui dois pratiquement tous mes plus grands succès. J'ai quelques disques d'or, et tous mes disques d'or, je les dois un peu à Madame Sophie McNeil.
Beaucoup de succès dans les années 70. À l'époque, les médias vous faisaient confiance. Hein, je pense notamment à cette émission télévisée que les plus jeunes, dont je faisais partie, c'est Midi Première avec Daniel Gilbert.
On
vous a souvent vu avec votre piano.
Oui, ça c'était... C'était une femme adorable qui était très populaire et qui nous a accueillis avec toute sa gentillesse. Oui, c'était une époque où la télévision n'était pas encore des châteaux forts imprenables.
Oui. on ne peut pas dire que l'arrivée des radios libres et des télés privées a amené beaucoup de variétés. On ne vous voit plus ou presque sur relatif anonymat médiatique et facile à vivre.
Non, il vaut mieux avoir des médias qui vous aident, et c'est pour ça qu'on est content de vous recevoir aujourd'hui, que je suis content de parler avec vous. Bien sûr qu'on a besoin des médias et de tout, que ce soit les journaux, que ce soit les magazines, que ce soit la télévision, que ce soit la radio. Mais malheureusement, on ne peut pas les forcer à vous passer s'ils n'ont pas envie de vous passer. C'est comme si vous vouliez faire manger à quelqu'un un plat qu'il n'a pas envie de manger. Et ils ont leur goût, et ils pensent que leur goût, c'est le goût. C'est pas toujours le goût de leur public d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que il y a quelque part une sorte un petit peu de mépris du public parce que souvent ils passent des choses, ils font des choses qui ne sont pas forcément du goût du public. Mais ils appellent ça l'audimat et plus ça fait scandale, plus ça plaît. Voilà. Alors je ne suis pas un faiseur de scandale. Je regrette d'ailleurs.
C'est vrai?
J'aurais bien aimé, mais c'est pas ma nature.
Donc depuis les années 70, vous continuez d'écrire, d'enregistrer, de chanter vos chansons sur toutes
scènes
de France.
Je fais l'Olympia le 9 mars, je sors un album merveilleux avec 15 nouvelles chansons. Je travaille plus que je devrais le faire parce que je devrais un peu ménager ma monture. Je ne le fais pas parce que quand on aime, eh bien on ne réfléchit pas on est tout entier à sa passion.
Ouais. Donc vous aviez fêté vos 50 ans de carrière en 2005, en 2004, vous avez donc fêté vos 55 ans de carrière. Vous prenez toujours autant de plaisir sur scène?
Plutôt plus, parce que c'est de plus en plus un défi. Et quand il y a à chaque fois un challenge qu'il faut gagner, eh bien, on ressort toujours un peu plus fort, quoi.
Ouais.
On se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de chance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Et alors, côté chanson, qu'est-ce qu'ils trouvent grâce à vos yeux en 2009? Il y a des artistes qui vous ont ému, qui vous ont marqué récemment.
Je vais vous faire une vraie confidence. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je vis dans ma tour d'ivoire.
Ouais.
Et en fait, ce qui se passe autour de moi, je dois dire que je le connais mal, que je ne le connais pas bien. Et qu'il y a tellement de gens qui s'en occupent que je vois pas pourquoi moi je m'en occuperai. Ça ne me passionne pas. J'ai d'autres. Si vous voulez, je suis comme quelqu'un qui fait un métier qu'il adore, mais qui quand il l'a fait, il aime bien en sortir, quoi. C'est pour ça que je suis pas dans les cocktails. C'est pour ça que je suis pas dans les endroits où il faut être pour rencontrer Monsieur Tartampion avec Madame Tartampion. Je n'y suis pas parce que ça m'intéresse pas.
Vous n'écoutez pas les radios.
On pense que je suis hautain, que je suis snob, que je suis fier. C'est rien de tout ça. C'est simplement que je vis dans ma tour d'ivoire avec mes idées, avec mon passé, avec mon présent, avec mes conquêtes à faire qui, je vous dis, sont de plus en plus difficiles.
Ouais.
Parce qu'il faut les faire et que c'est physiquement et intellectuellement difficile et fort fatigant. Alors je vis un égoïste dans mon monde de chansons et je ne suis pas au courant des cancans qui courent les rues de Paris.
Même maintenant, il y a des artistes qui auraient pu vous plaire, mais
mais vous savez que quand j'entends Cabrel, quand j'entends Sardou, quand j'entends les très grands, je ne ferme pas la radio. Hein. J'écoute, d'abord, j'écoute pas assez la radio, je le reconnais, ni je regarde pas assez la télévision. Mais quand j'entends des bons, il y en a plein. Je trouve que la chanson française ne s'est jamais mieux portée. Il n'y a jamais eu autant de bons chanteurs. Il n'y a jamais eu autant de bons arrangeurs. Il n'y a jamais eu autant de bons preneurs de son. Jamais les disques n'ont été aussi bien pressés. Jamais en France, on a eu la chance d'avoir une production de chansons d'aussi grande qualité. Parce qu'avant, il y en a eu, mais c'était des exceptions. Ouais. Hein, il y en avait un, et puis c'était fini. Mais aujourd'hui, il y en a 10. Ouais. Et c'est parce qu'il y en a 10 que je ne les connais pas tous. Voilà. Mais quand j'en entends un qui me plaît, je ne tourne pas le bouton de la radio, je suis très content. Et je trouve que c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui aient beaucoup de talent, parce que c'est grâce à eux qu'on entretient l'amour de la chanson du public. Hein. Si le public aime la chanson, c'est parce qu'il y a de très bons chanteurs, de très bons compositeurs, de très bons auteurs, tout ce que je viens de dire. Yeah. Donc, ceci mis à part, ça ne m'empêche pas d'avoir de grands moments de bonheur en entendant parfois une chanson formidable, et je me dis, j'aurais bien aimé l'écrire. Bien sûr.
Eh ben merci Charles Dumont d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir appelé.
Donc on vous retrouve en concert, et oui, vous serez en concert dans l'Ain, chez nous, à l'espace culturel de Jujurieux le samedi 7 février 2009.
Ah oui, ça c'est très très samedi. Important parce que c'est aussi un challenge. Ah. Parce que Jujurieux, vous voyez, c'est quand même un endroit dont on ne parle pas tous les jours dans la presse parisienne.
Même chez nous.
Et qu'ils aient eu la bonne idée de me demander de venir. Je croise les doigts que le public soit là, et je vais faire le meilleur de mon mieux pour que le public de Jujurieux soit heureux. Je vous dis à bientôt.
Eh bien Charles Dumont, à bientôt, et puis continuez comme ça.
Si,
à bientôt, au revoir.
Au revoir.